De retour avec Ulie Forte. Ulie Forte, vous l'avez découvert il y a quelques jours de cela. Nous avons continué notre entrevue en sa compagnie et je vous propose de suivre la deuxième partie de cette entrevue.
Et en plus, tu as eu un enfant l'année passée avec Caroline, un fils qui s'appelle Matteo. Il est arrivé un peu pendant cette période un peu compliquée qu'on vit tous. Toi, tu perdais ton poste un petit peu avant, hein, sauf erreur.
Non.
La fin de Getse, c'était.
Il est né en 2020.
Il est né en 2020.
Moi, j'ai perdu mon poste. Ah non, tu as raison. Maintenant, je... tu connais mieux que moi. Absolument. J'ai perdu mon poste à Getse. Les premiers de février. Mm-hmm. Hein? Et ça c'est aussi une histoire intéressante. Quand je suis parti de Getse, quand ils m'ont limogé là-bas, quand ils m'ont envoyé, je suis arrivé à la maison et ma femme m'a toujours dit, écoute, il y a une raison pourquoi ils t'ont envoyé. J'ai dit pourquoi? Parce que maintenant tu peux savourer,
ouais,
tout le temps de la nacité,
de la naissance,
jusqu'à on ne sait pas, hein, ouais. Jusqu'à on ne sait pas, mais tu peux savourer tous les moments. Et c'est ça que c'est bon maintenant.
Et au niveau des émotions, c'était aussi intéressant parce que incroyable. Ça a fait un peu les montagnes russes pour toi.
C'est incroyable parce que imagine si tu as le club et tu joues, je ne sais pas où, et tu ne peux pas aller vers ta femme. Où tu peux aller, mais seulement en terme court, et après tu dois de nouveau repartir. C'est pas la même chose. Maintenant, comme ça, j'ai pu vraiment savourer tout. Le petit, il a fait déjà pipi sur moi, il a fait déjà caca sur moi quand je changeais les pampers. Il m'a, comment on dit, vomi. Après avoir mangé avec ma femme,
c'est bien.
J'ai savouré toutes les situations avec le petit et ça c'est génial.
Qu'est-ce que ça change pour toi en tant que homme d'être papa maintenant? Et t'as été papa, c'est ton premier enfant, sauf erreur, hein, oui. Ulie. Oui. Donc t'as été papa, on va pas dire tardivement, mais un peu plus tard que la moyenne des gens. Tu t'es sûrement concentré sur ton travail avant. Tu n'avais peut-être pas trouvé la bonne personne, tu n'étais pas allé à Berne plus tôt. Et le fait d'avoir un enfant comme ça, qu'est-ce que ça change pour toi?
Premièrement, une grande joie, hein? Vraiment une grande joie, parce que le moment quand il sort, le petit, et tu n'entends rien, hein? Je pense que tu as aussi des enfants, non?
J'ai pas d'enfant, mais j'ai beaucoup de j'ai un petit peu d'expérience quand même là-dedans.
Le moment qu'il sort, c'est complètement nu. Tout l'hôpital, les salles d'opération, tu n'entends rien. Et là, c'est un moment vraiment dramatique. Hein. Et tout à coup, tu sens. Et là, tu sais, OK, il est là. Il est là, il est vraiment là. Et ce moment-là, je te dois dire, j'ai pleuré.
J'imagine.
Pas le moment que c'était mu, hein, on n'entendait rien. Là, j'étais un peu... Parce que tu attends, non?
Bien sûr.
Le moment qu'il a commencé à brûler, à crier, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un petit enfant, parce que ce sont des sensations incroyables. Tout le monde me disait ça.
Pense qu'il faut vivre ça, oui. C'est important.
Tout le monde me disait ça, écoute, oublie tes coupes, oublie tes promotions, oublie tes matchs internationaux. Le moment que tu deviendras père, papa, c'est une émotion incomparable.
Et c'est vrai.
C'était vraiment ça, vraiment. Et pour moi, maintenant, je peux te faire un exemple. Seulement pour te faire un exemple. Moi, quand j'étais seul, pas encore avec la famille, dans la voiture, la ceinture, presque jamais. Des fois, hein, quand je faisais les longs voyages, mais pas toujours, toujours. Hein. Le moment que j'ai eu ma famille, que Mathéo est arrivé, la ceinture
change.
La ceinture, c'est la première chose que tu prends. Parce que c'est pas une option, tu sais. Même si je vais vers le boulanger ici, à 200 mètres, dans le village ici où on vit. Parce que tu as une autre responsabilité, tu sais. Tu as une autre conscience, tu sais.
Bien sûr.
Et ça a changé beaucoup.
Est-ce que ça change aussi d'avoir... parce que toi, t'as vécu et entraîné toujours en Suisse. Est-ce que maintenant, ben voilà, on a entendu des intérêts ou comme ça, ben voilà, dans les médias, on suit un peu ce qui se passe, vu que tu es un entraîneur intéressant et en recherche de poste, donc c'est normal que ça parle. Si tu dois aller autre part que la Suisse, comment tu vois cette perspective? De laisser la famille, elle vient avec de...
Ça dépend toujours du projet. Ça dépend du pays. Ça dépend des choses importantes dans un club. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'offres de Arabie Saoudite, Dubaï, Kazakhstan, tous les pays là-bas, l'Asie. Et ça, je ne suis pas prêt de faire. Mais pas à cause de la famille, parce que ça pourrait aussi aller un peu. Mm-hmm. On s'organise.
Bien sûr.
Mais au moment, je ne veux pas aller là-bas parce que ce n'est pas ma route que je vais prendre. Je vais prendre la route, disons, le foot qui compte. Le foot qui compte, c'est pour moi Allemagne, Italie, France, Espagne, Angleterre, je ne parle pas parce que c'est très, très important, très difficile d'entrer. Mais moi, je veux prendre vraiment encore cette route-là.
Très bien.
En 10 années, en 15 ans, je ne sais jamais si on peut aller une fois à Dubaï avec la famille, je ne sais pas, on verra. Mais au moment, je ne veux pas. C'est pour ça que je ne prends pas ces offres-là. S'il y a quelque chose de vraiment intéressant, il faut se organiser. Moi, à l'époque, quand j'ai fini avec eBay, quand ils m'ont envoyé à eBay, j'étais en contact avec Stuttgart. J'étais en contact avec Stuttgart et ça manquait vraiment peu que je devenais entraîneur de Stuttgart. À l'époque, c'était Robin Dutt, le directeur sportif. Mm-hmm. Il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Zorniger, qui était, c'était aussi un entraîneur de la maison Red Bull. Et il a fait 12 matchs, je pense, avec 2 points. Je ne me souviens plus tout à fait, mais c'était plus ou moins ça, très mal. Et ils l'ont envoyé. Et là, j'étais candidat pour devenir entraîneur de Stuttgart. Et là, avec ma femme, Mathéo, il n'était pas encore là, parce que c'était 2015, 2006, décembre, janvier, là, la pause invernale. Et là, on se organisait déjà. On avait déjà parlé. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, Stuttgart n'est pas très loin, tu peux aller avec la voiture. Tu peux aussi prendre le vol. Et on s'organise, parce que ma femme, elle me soutient à 100%, elle me soutient, et à la fin, c'est une question d'organisation. Et là, on parlait, qu'est-ce qu'on fait, on prend un appartement à Stuttgart, et un appartement à Zurich, et malheureusement, à la fin, ça n'a pas conclu.
Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, par exemple, dans ce cas de...
Oui, là, c'était comme ça. Ils ont pris, ad intérim, ils ont pris l'entraîneur des mois 23. C'était Jürgen Kramny, à l'époque. Et l'idée, c'était qu'il prenait l'équipe et après, moi, j'entraîne. Plus on l'a. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jürgen Kramny, avec l'équipe, il a commencé à gagner. C'était, je pense que c'était avant-dernier quand il a commencé. Dans la pause d'hiver, il était 10e, à quelques points de l'Europe.
Il avait fait la moitié, il avait fait la moitié du chemin déjà.
Et Robin Dutt, il m'a appelé à l'époque, il m'a dit, écoute, Uli, je peux pas changer. On laisse Kramny parce qu'il a fait si bien,
ouais.
Et tellement bien, Et moi, je lui ai répondu, écoute, Robin, je te comprends. Bon, parce que dans cette situation-là, tu changes et ça ne marche pas. Il te coupe la tête, tu sais. Alors, il a laissé et ça n'a pas conclu. Ça n'a pas fonctionné.
Qu'est-ce qui est dans ta carrière jusqu'à maintenant ta plus grande fierté, football, hein, et ton plus grand regret, je sais pas, si d'être pas allé au bout d'une aventure avec un club, d'être parti peut-être de Zurich, où ça s'est fini, on sait pas très bien.
Beaucoup de gens ont dit ça. Si tu avais pas parti trop vite de Getse, on aurait pu gagner le championnat l'année après. Hein. Mais comme je te dis, eBay pour moi, c'est la chose numéro un que j'ai fait parce que là, j'ai connu ma femme. Avec ma femme, j'ai maintenant mon fils ici, Matteo, qui veut aussi participer. Alors ça compte pas. Voilà quoi, papa. Voilà quoi.
On va lui faire un podcast aussi une fois,
Matteo. Ouais, on va faire. Ça, je compte pas. Mais ma plus grande fierté a aussi à faire avec Getse, hein, parce que quand je suis entré après Chiriakos Forza, c'était, je ne sais pas si tu te souviens, mm-hmm. je suis arrivé après Chiri, qui maintenant est en train de travailler à Bâle, mm-hmm. et là on était presque relégué. Hein. Il y avait Tchagaïev avec Samax, qui avait complètement pété.
C'était une époque spéciale.
Et il y avait Sion avec avec l'amende, avec
les 36 points là. Ou...
36 points qu'ils ont enlevé, hein, parce qu'ils ont fait des transferts qu'ils ne pouvaient pas.
C'était Ladari, je crois, le gardien.
Et c'est seulement pour ça qu'on s'est sauvé. Hein. Ouais. Je suis entré, parce que je suis entré seulement 7 matchs à la fin, je pense. 7 ouais. matchs, j'ai fait. Et après, on a reconstruit l'équipe. On a mis un autre esprit dans l'équipe. On a mis un autre mix entre routiniers et jeunes. Et l'an après, on est parti comme un jet d'eau. Hein. On a fait le vice-champion. On a fait
Tu gagnes la coupe contre Bâle.
Contre Bâle. À l'époque, c'était le Bâle qui a gagné après 8 fois, un après l'autre. Hein.
C'était 2013, hein, 2013. Quoi.
C'était le 20 mai 2013. Tu sais pourquoi je le sais si bien? Parce que c'était un jour avant l'anniversaire de mon frère. Et comme la situation, elle le voulait, on a gagné la coupe, on est allé fêter le soir, et à minuit, mon frère a eu son anniversaire. Elle est avec nous.
C'était fantastique.
On était tous ensemble. Et tu peux t'imaginer qu'est-ce que c'était pour mon frère faire la fête avant minuit pour la coupe, après minuit pour son anniversaire. Il était l'homme.
Le roi du monde.
Ça, c'est ma plus grande fierté. Mon regret, ça compte aussi. Ça compte aussi. Ça, c'est aussi partie du foot, comme je t'ai dit avant. Mm-hmm. La défaite, elle est partie du foot. Elle est partie du sport, pas seulement du foot. Si tu ne peux pas gérer ça, tu ne peux pas faire le sport. Mm-hmm. Mais mon regret, c'est la coupe avec eBay contre Bourse. Deuxième interrégional à l'époque, mais ils sont montés après en premier parce qu'ils étaient bonne équipe. Mais ça, c'était mon plus grand regret. Qu'est-ce que j'ai fait? Le jeudi avant, on a joué la Europa League avec eBay à la maison contre Slovan Bratislava. Et on a fait le record en absolu. Mm-hmm. On a gagné 5-1, je pense, ou 5-0, je ne me souviens plus. 5 à, on a marqué 5 buts. Qu'est-ce que j'ai fait? Jeudi, j'ai joué. Dimanche, c'était la coupe contre Bourse. J'ai dit, écoute, ils sont fatigués, ils sont assez fatigués. On a un grand programme devant nous. Je vais faire le turnover, ouais. Changer des joueurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé 9 positions.
C'est la plus grosse erreur.
Même si à l'époque, il y avait des joueurs Même après, les neuf positions ont changé. Il y avait des joueurs sur le terrain comme Waro, comme Rocha, comme Gaïc, comme Souter, Fulfli. C'était une grande équipe. Hein? C'était vraiment une grande équipe. Mais je voulais donner un petit break aux joueurs qui ont joué jeudi. Je pense que Steve Von Bergen n'était même pas dans le cadre. Il n'était même pas sur la feuille. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme le dieu du foot, hein, il veut, on a perdu 1-0. On a perdu 1-0.
Mais eBay, ils ont fait.
Ça, aujourd'hui, je ne ferai plus.
Mais eBay a fait quelquefois des je me rappelle quand eBay venait jouer aussi en Suisse romande, contre Bavois ou contre Le Mans, ou contre. Enfin, voilà. C'était toujours des matchs contre des équipes qui étaient potentiellement plus faibles ou plus petites. Et pendant très longtemps, c'était très compliqué pour eBay de passer les tours.
Oui, ouais, absolument. C'était une histoire longue.
C'est
une
malédiction, presque.
Malédiction, tu le dis. Parce que avant mon regret là que je t'ai mentionné, eBay est sorti contre Lille, est sorti contre.
Contre tout le monde, je crois.
Contre l'équipe. Et c'était comme une malédiction. Et moi je voulais interrompre cette malédiction.
Bien sûr.
Terminé. Et je suis tombé quand même dedans. Et ça, aujourd'hui, je ferais tout autre chose, mais c'est aussi ça le foot. Hein. Tu dois apprendre, tu dois faire tes expériences et il faut continuer.
Mais ça reste humain aussi, c'est ça que c'est pas une machine où on peut se dire oui, ça va fonctionner tout le temps. Il y a quelqu'un qui tombe, il y a quelqu'un qui glisse, il y a quelqu'un qui fait une faute. Tu parlais de Soares tout à l'heure contre Stade Lausanne, ben voilà, il marque, l'arbitre le punit pas, ça change. Oh,
ça change complètement.
Qu'est-ce qui fait que tu es jamais allé entraîner en Suisse romande?
J'avais des offres, mais j'ai jamais fait encore le pas parce que je pouvais rester toujours ici en Suisse allemande. Mais c'est pas que je veux pas aller entraîner là-bas, pas du tout. Hein. J'ai eu des offres très très intéressantes aussi où on a parlé concrètement, mais il n'y a jamais eu le moment où ça s'est passé.
Bon, il n'y a pas 50 clubs en Suisse romande de toute
mais
façon.
Non, il y a pas 50 clubs, mais peut-être au futur, qu'est-ce que c'est? Tu ne sais jamais. Maintenant, mon tour a commencé en Suisse allemande. Pourquoi pas en Suisse romande? Hein, pourquoi? C'est pas un problème pour moi. Mais ce que je voulais encore raconter de la coupe, c'est drôle. Je ne sais pas si tu as vu le film 125 années de Fédération Suisse du foot.
Non, j'ai pas vu.
Tu l'as vu, mais ils l'ont envoyé, ils l'ont montré autour de Noël et de nouvelle année.
Je pense. Alors, mais il faudra que je le cherche. Il faudra que je le voie.
Il y a un film qu'ils ont montré. C'est la fédération qui a fait un film pour les 125 ans de jubilé. Hein. Et là, c'est drôle parce qu'il y a eu un chapitre de coupe. Et moi, quand j'étais joueur à Red Star, une fois, on est arrivé en semi-finale de coupe. Et on a joué contre Getze. Et avant d'arriver en semi-finale contre Getze, on a battu Yverdon, on a battu Chiasso, on a battu même Lugano, qui était une Super League à l'époque.
Ah, bien sûr.
On a battu beaucoup des clubs de National Liga. Et à la fin, on avait Getze en semi-finale. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je te veux raconter? Dans ce petit chapitre de coupe, il y a les cinq plus grands moments de l'histoire de la Coupe Suisse. Et avec Red Star, quand j'étais joueur encore, on était dedans. Hein, parce qu'ils ont montré la victoire contre Lugano. Non mm-hmm. Et nous, on a un chat avec les anciens Red Stariens, hein, les joueurs de Red Star. On a un chat. Mm-hmm. Là, j'ai mis tout de suite les images. Et j'ai dit, écoute, vous vous souvenez, hein, c'était une grande performance. Et j'ai félicité tout le monde hein, pour ce match-là. Et dans ces cinq, ils ont mis aussi le match contre Bourse que je t'ai mentionné. Et quand je l'ai félicité, j'ai dit, écoute, les gars, je vous félicite pour ce moment magique de la histoire de la Coupe Suisse. Malheureusement, j'ai écrit en parenthèse, malheureusement, je suis deux fois dedans, pas seulement une fois, je suis deux fois. Ils ont commencé à rigoler, non?
Bien sûr.
Parce qu'ils ont tout de suite réalisé, avec Ibe, c'était lui qui a perdu à Bourse. Seulement pour te montrer, le foot, c'est top, et aussi la défaite. Il y a les deux. Beaucoup de gens, aussi journalistes, m'ont toujours dit, hey, toi, tu es le monsieur coupe, parce que j'ai fait la semi-finale avec Lille, comme Challenge League, j'ai fait la semi-finale avec Saint-Gall, j'ai fait la finale, j'ai gagné les coupes deux fois et tout ça. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai gagné les coupes, mais j'ai aussi perdu des grands matchs dans la Coupe Suisse. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les deux.
La balance.
Il faut surtout accepter les deux.
Est-ce que gagner un titre de Coupe Suisse ou championnat, pour toi, dans ton cœur ou dans ta tête, qu'est-ce que c'est le plus important? Alors, t'as
pas... les deux.
Ouais. Est-ce que c'est différent ou c'est comment tu le sens?
C'est différent. C'est différent. Gagner la coupe, c'est beaucoup plus facile.
Bien sûr.
On doit être honnête. Parce que la coupe, des fois, sont 6, des fois 7 matchs. Donc, ça dépend du tableau. Mm-hmm. Ça dépend aussi quand est-ce que les équipes de Super League rentrent. Mais
gagner... Ça dépend le tirage au sort aussi.
Oui. Gagner en championnat, c'est beaucoup plus difficile. Là, tu dois être vraiment, vraiment top, constamment. Tu ne peux pas avoir des baisses. Avec Gaetze, on a eu presque les deux. Parce qu'à la fin, ça manquait 3 points sur Bâle à l'époque, 2013. On parlait avant.
Et c'était le grand Bâle.
C'était intéressant. On a joué, la coupe était pendant la saison. C'était pas comme après la coupe, le dernier match de la saison, non, c'était pendant la saison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a joué la coupe contre Bâle à Berne le dimanche, je pense que c'était, je me souviens plus, dimanche ou samedi, non, dimanche, plutôt dimanche, les finales de coupe sont dimanche. Mm-hmm. On a gagné la semaine après, on avait Bâle à la maison. Ce que je veux raconter, c'est on a gagné la finale. La semaine après, on a joué de nouveau Bâle à la maison. On a de nouveau gagné. 1-0. Et là, c'était 3 points. C'était 3 points derrière Bâle. Et malheureusement, Bâle, après, ils ont gagné tout. Ils ne sont plus faits répondre de notre part. Et ils ont gagné les matchs. Ça s'est resté sur 3 points, malheureusement. Mais cette semaine-là, deux fois avec Bâle, c'était une intensité incroyable. Et les fans, ils étaient fous, ils se deviennent fous. Parce que tu gagnes deux fois contre Bâle, le grand Bâle qui a gagné à l'époque, je ne sais pas combien de titres.
Qui était en Ligue des Champions, qui fonctionnait très bien, avec beaucoup d'internationaux, beaucoup de joueurs qui partent en Allemagne.
Et c'est ça, la chose intéressante. On a parlé de la semaine baloise. On a parlé là.
C'est très drôle, ces anecdotes. Et tu disais que tu avais vécu ce passage avec ton frère, avec son anniversaire, etc. Et peut-être que si tu avais été champion avec Gaetze cette année-là, on ne se serait peut-être pas parlé aujourd'hui, parce que moi, je suis un inconditionnel de Bâle et je suis né à Bâle. Donc, pour moi, c'est important. Et je me rappelle aussi de ce jour-là, parce que j'étais en Floride, j'étais sur la plage à Miami. Et,
Pendant la finale.
Et je suis vite allé regarder le match en streaming et tout ça. Et ma journée était complètement cassée après. parce que Gaetze et Uli Forte avaient gagné. Mais c'était très bien pour toi.
Tu n'étais pas le seul.
Bon, c'est la vie. Après, ça fait partie du sport, comme tu l'as bien expliqué. Nous, on ce qu'on aime bien dans ce podcast, comme on aime bien finir, on parle toujours de quelque chose d'un peu plus léger.
on demande un peu ce que l'invité regarde à la télévision, en streaming, s'il a le temps de profiter de films, de séries, s'il écoute de la musique, s'il a une passion, etc.
Au moment, je te dois dire, honnêtement...
que du foot.
les jours de fête, hein, Noël, Nouveau Année, j'ai regardé la série en... Comment il s'appelle pas en Netflix, l'autre.
Sur Amazon, sur Amazon. Disney, sur Amazon.
Amazon, j'ai regardé sur Amazon All In avec Tottenham. Très intéressant, très très intéressant. Ça commence avec Pochettino, le dernier match qu'il a fait avant d'être envoyé. Et après, c'est Mourinho qui entre. C'est très très important. Hein. Très 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 intéressant, vraiment. Tu es dedans, tu es dans la vestiaire, tu es dans les séances, tu es dans l'office, le bureau de Mourinho avec ses adjoints. Vraiment intéressant. Ça, j'ai regardé toujours après que j'avais regardé quelque chose avec ma femme. Des fois, on regardait par exemple, qu'est-ce qu'on regardait? Casa de Papel. Hein? Ça, c'est très, très connu. Hein? Et on commençait avec Casa de Papel. Le moment qu'elle devenait un peu fatiguée, hein, qu'elle prenait un peu de sommeil.
Tu passais sur Mourinho et Tottenham.
Je changeais tout de suite Amazon. Je mettais Mourinho All In avec Tottenham.
Est-ce que tu as regardé la série avec Michael Jordan?
Ouais, ça c'est The Last Dance. The Last Dance.
Ça c'est impressionnant, cette série.
Ça, tu dois mettre en vidéothèque. Tu sais, chaque club, ça n'importe pas. Ça n'importe pas quoi. Chaque club.
Ça dépasse le sport. Ça dépasse le sport.
Pas seulement le basket ou le foot, tous les sports. Ça, c'est une théorie de vie, comment on se comporte dans une équipe qui a du succès.
C'était vraiment impressionnant. Puis je pense que.
Incroyable.
Comme il jeune aussi.
Comme il disait, que je pousse toujours mes coéquipiers parce que je veux le maximum. Ça sont les joueurs qu'il te faut comme entraîneur.
C'est clair.
Si tu as ce genre de joueurs, tu gagnes des titres.
Est-ce que tu as eu un joueur particulier, toi, c'est toujours difficile de dire un joueur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est techniquement, mais peut-être humainement aussi, quelqu'un qui t'a marqué
Il y a beaucoup de joueurs comme ça, parce que sans ce joueur-là, tu n'as aucune chance. Mm-hmm. Aucune chance, parce que toi, comme entraîneur, tu peux préparer, tu peux parler, tu peux gérer, mais à la fin, tu es dehors. Tu n'es pas dedans. Mm. Et la chose se passe dedans. Dans le terrain, pas à côté.
C'est clair.
C'est pour ça qu'il te faut des joueurs comme ça. J'ai eu beaucoup. Il te faut les joueurs comme ça. Il te faut les joueurs comme ça parce que ça sont les joueurs qui font la différence. Si je dois faire une liste, c'est une liste très grande. À l'époque, à Getse, il y avait Salatić qui était très, très dominant, qui faisait le playmaker sur le terrain, à côté du terrain. Mais il y avait aussi un Grifting, il y avait aussi un Vilotić qui ne parlait pas de l'allemand, mais il était si influent qu'il aidait l'équipe. Et il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait Burki dans le but qui a profité beaucoup du travail des routiniers. Il y avait Abrashi au milieu du terrain. Il y avait Hajrović. Il y avait Steven Zuber. Il y avait Ben Khalifa. Il était très jeune. Mais il grandit. Ils ont grandi avec ces joueurs-là. Non? À IB, j'avais Steve von Bergen. Le premier année, j'avais Christophe Spicher avant qu'il a quitté. Après, Waro est arrivé. J'avais des joueurs très, très importants qui faisaient le Jordan dans l'équipe.
Les égos dans l'équipe, c'est difficile à gérer?
Les égos, il te faut des fois, surtout s'ils sont des attaquants. mais c'est surtout l'équipe qui gère ça. Toi aussi comme entraîneur, mais à la fin, c'est l'équipe qui doit gérer les égos. Parce que, comme je t'ai dit, nous, on est dehors. On est dehors, on peut parler, on peut diriger, mais à la fin, c'est l'équipe sur le terrain qui doit faire ça.
Quand tu vois un garçon comme Zlatan Ibrahimovic, à son âge, ou Cristiano Ronaldo, ce qu'ils sont encore capables de faire maintenant, qu'est-ce que ça t'inspire pour toi?
Ouais, Zlatan Ibrahimovic, c'est le Jordan du AC Milan au moment. Je ne sais pas si tu as vu l'interview avec lui.
Oui.
Si tu n'as pas vu, tu dois absolument...
Ah non, mais elle est incroyable. On est d'accord.
Il a parlé exactement de ça. Il a dit, écoute, je pousse chaque joueur, je le pousse au maximum. Et s'il ne s'entraîne pas bien, je lui dis, écoute, demain, je ne veux pas que tu t'entraînes comme ça. Et lui, il est dur. Hein? Il est dur avec les joueurs. Et puis, le commentateur qui a fait l'interview, le modérateur, c'était Ambrosini. Ambrosini, c'est un ancien joueur du Milan. Il a joué avec Zlatan. Et il lui dit, Zlatan, première fois que tu es à Milan, que tu étais à Milan, tu n'étais pas comme ça. Tu étais encore plus dur. Tu étais encore plus instinctif. Tu étais encore plus agressif sur les joueurs. Pourquoi? J'ai dit, écoute. Et lui, il dit, écoute, la première fois qu'on était là, même avec toi, quand tu étais là, on avait des joueurs incroyables. On avait Seedorf, on avait Maldini, on avait des joueurs Pato, on avait Ronaldinho. Si là, quelqu'un il rate un passe, c'est parce qu'il n'est pas concentré. Alors, je acceptais encore mieux, encore moins que maintenant. Maintenant, je n'ai plus cette équipe-là. Maintenant, je dois être un peu plus attentif, peut-être un peu plus doux, parce que je dois accepter aussi des joueurs qui n'ont pas la qualité.
Mais physiquement, il est encore incroyable. Je voyais sur ses réseaux sociaux hier ou aujourd'hui, il montrait des entraînements où il avait le ballon sur la poitrine et puis complètement fou.
Physiquement, tu peux pas jouer à cet âge, tu ne peux pas jouer sur ce niveau-là si physiquement tu n'es pas un monstre. Ronaldo aussi. Ronaldo est un monstre physiquement. Moi, je prenais toujours Ronaldo quand j'avais les équipes. Mais je parle aussi déjà de 10 ans, il y a des ans. Hein? Mm-hmm. Je prenais toujours Ronaldo sans maillot quand il
enlève son maillot. Ouais.
Quand il hésitait avec le but, quand il marquait, je disais toujours, écoute, qu'est-ce que vous pensez? Il fait le travail physique ou il ne fait pas? Qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde commençait à rigoler parce que savait tout de suite que c'était le cas, non? Et je disais, alors, si vous voulez arriver en top, il faut travailler aussi physiquement, pas seulement avec le ballon.
Oui, c'est vrai, parce que des fois, on a tendance, quand on sait bien jouer au ballon, on sait bien le manier, d'être un peu plus peut-être comme Maradona, tu vois, quand on le voyait s'échauffer, voilà, il était tellement facile qu'il y avait tout un aspect de physique qui ne faisait pas.
Alors, physiquement, pour moi, pour jouer si longtemps, comme un Zlatan maintenant, physiquement, tu dois être un monstre. Ça veut dire que tu dois être tellement discipliné tout le jour, toutes les semaines, toute l'année, parce que tu dois te nourrir d'une manière parfaite. Tu dois entraîner d'une manière parfaite, tu dois te reposer d'une manière parfaite. Ça veut dire le soir, tu dois aller te coucher, pas aller ici. Ok, au moment, c'est pas possible. Avec le Covid, ça c'est bien pour les footballeurs. Mais Ibrahimovic, il fait ça depuis longtemps.
Et il est déterminant encore à 37 ans. Il est déterminant, il marque des doublés.
Chaque club qu'il a passé, il a gagné. Chaque.
C'est impressionnant. J'ai eu la chance de le voir en vrai jouer. Je crois que c'était surtout à Paris que je l'ai vu. Mais il était tellement spécial sur le terrain parce que à plein de moments, il bouge pas. Il est très statique et il sent tellement le jeu. Et tout d'un coup, paf, il fait un décalage et puis la balle est au fond. Et tu es là, mais tu as pas compris ce qui s'est passé.
Il a aussi expliqué dans l'interview. Avant, quand il était plus jeune, il allait beaucoup prendre le ballon plus bas. Il a dit, maintenant, je peux plus. Je peux plus. Il a dit, pourquoi tu peux plus? Parce que je vais toujours aller prendre le ballon bas. J'arrive devant le but, je suis. Ouais.
Non, mais c'est hyper important. Et je pense aussi pour les jeunes joueurs, quand ils ne peuvent pas faire 200 courses, ils doivent aussi sentir quand est-ce qu'ils peuvent faire la course, quand est-ce qu'ils ne peuvent pas se brûler directement. Et je trouve que quand on voit un joueur comme Zlatan, si on regarde un peu comme les scouts regardent, hein, ils ne se positionnent que sur un joueur et ils regardent comment il travaille, il est très intéressant à décortiquer et à comprendre le fonctionnement.
Absolument, absolument.
Et comme il gère les réseaux sociaux et tout aussi, ça c'est, il s'est fait un personnage, quoi.
Moi j'ai eu Andris Vanins à Zurich. Hein? Quand j'ai commencé à Zurich, c'était plus ou moins la même situation comme à Getze. Hein? Je suis entré seulement 3 matchs. Là, j'ai fait seulement 3 matchs parce que je suis entré après Sami Hupia.
Ouais.
L'équipe était en train de descendre. J'ai essayé tout à la fin. On a fait 3 matchs, 4 points. Et ça ne suffisait pas parce que Saint-Gall devait gagner à Lugano si on voulait rester en Ligue. Et malheureusement, Lugano a gagné contre Saint-Gall. Et c'est pour ça qu'ils sont restés en Ligue et nous, on est descendus. J'ai fait premier match, Saint-Gall perdu. Deuxième match, Sion à l'extérieur, 2-2. Et troisième match, c'était Vaduz à la maison. On a gagné. C'était 3 matchs, 4 points, mais ça ne s'est pas suffi. J'avais après Andris Vanins, je l'ai pris en Challenge League. Il est venu de Sion parce que je voulais. Brecher s'est cassé les ligaments croisés, était dehors. Alors j'ai dû prendre un gardien. Et j'ai pris Vanins. Et Vanins a été déjà. Dans un certain âge, parce qu'il est 1980. Hein? Et lui, il était le meilleur exemple pour les jeunes. Il travaillait comme un fou. Après l'entraînement, il faisait toujours ses exercices. Toujours, toujours, toujours. Et les jeunes, des fois, regardaient, ils disaient, « Hey, Vanins, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Et après, lui, il a dit, « Quand tu deviens plus âgé, tu dois entraîner encore plus. »
Est-ce que c'est des fois aussi une histoire de génération? Est-ce que les jeunes maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, ils sont plus occupés à faire la coupe de cheveux, d'avoir un pull de couturier, etc., que de vraiment faire le travail?
Les joueurs qui veulent vraiment arriver en top, et en top, ça veut dire pas Super League, ça veut dire à l'étranger, ça veut dire Bundesliga, ça veut dire Serie A, ça veut dire Premier League, peut-être. Les joueurs qui veulent aller là-bas, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'ils doivent entraîner plus. Les autres qui ne font pas, qui peuvent jouer tranquillement en Super League, mais pas plus, ils vont noter seulement après quand ça commence à finir après.
Mmh. Là, tu sais ce qui m'a toujours choqué. Parce que c'est vrai que je parle avec beaucoup de joueurs de foot, hein, vu ce que je fais au quotidien, et beaucoup, hein, qui sont capitaines d'équipes en Super League ou comme ça, ou qui sont influents, qui jouent tous les matchs. Quand je leur parle de quelque chose de l'étranger, etc., ils me disent, ah, mais tu vois, je suis capitaine ici à Lugano, à Lucerne, à Zurich. Si je vais dans un autre championnat, j'aurai plus les mêmes conditions. Je vais devoir, peut-être, je vais être sur le banc. Je vais pas être capitaine. Je vais pas avoir le regard des autres comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que je trouvais que beaucoup de joueurs avaient une attitude. Quand on était petit, on voulait gagner la Coupe du Monde, Ouli. On commençait le foot pour gagner la Coupe du Monde. Quand on était au terrain à Bruttizellen, c'était ça. Et quand j'entends ces discours-là, de me dire, ben voilà, ils sont en Super League et c'est le maximum pour eux. J'ai l'impression que mentalement, il y a un blocage et je trouve dommage.
Ils sont, comme je te dois dire, ils sont contents trop, trop tôt, trop vite.
Puis ils ont la zone de confort, hein, ils restent là-dedans. Et...
Si tu veux vraiment aller au maximum, tu dois quitter cette zone que tu as mentionnée. Tu dois la quitter et ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des joueurs qui font une belle carrière ici en Super League, mais pourraient faire beaucoup plus. Hein, beaucoup plus, parce qu'ils ont le talent. Mmh. Et en Suisse, on ne doit pas se cacher. Hein. On a des bons joueurs, on a des bonnes équipes. On ne doit pas se cacher comparé à l'Allemagne. Mais, ça que j'ai dit au début, l'Allemagne, c'est ça, hein, à 120 à l'heure, chaque entraînement. Et beaucoup de Suisses ont de la peine avec ça. Mmh. Surtout quand ils arrivent dans ces clubs-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l'étranger. Ils ont fait 6 mois, ils ont fait 12 mois, peut-être 18 mois. Ils sont retournés en Suisse. Parce que à la fin, c'est ça qui compte.
Ouais, parce que quand on est ici, ben voilà, on a la famille, on a l'entourage, on connaît tout. On est un peu la star dans le club de Super League. Les gens parlent de nous. On arrive en Allemagne, en Italie, en France, personne ne nous connaît. On doit prouver quelque chose. Et puis, j'aime bien dans cette latitude de Omlin, par exemple, à Montpellier, où il est arrivé et il est parti pour... Les gens disaient, bon, Montpellier, est-ce que c'est vraiment un super choix? Je pense que c'est très bien pour lui parce qu'il est allé dans un club où ils savent travailler avec ce type de joueur et il fait ses matchs, il progresse. C'est pas une équipe qui va finir premier, mais petit à petit, ils vont.
Et il pourra une fois faire le prochain pas. Hein.
Clairement, je pense que c'est
tu vois, Roman Bürki, je prends Roman Bürki parce que je l'ai eu à Gaetze et je connais le chemin. Il a fait Freiburg. Tout le monde a dit Freiburg, qu'est-ce que c'est ça? Mais après Freiburg, il a fait Dortmund. Et maintenant, il joue à Dortmund depuis longtemps. Il a joué Champions League, a joué, gagné la Coupe déjà. C'est ça.
Un joueur incroyable.
Tu dois faire pas après pas. Pas après pas. Ça.
Et faire le bon choix parce que on voit des fois dans les médias hein, les transferts qui se font des jeunes qui partent très vite ou trop vite à l'étranger et bon, des fois tu peux te dire est-ce qu'il n'y a pas l'agent derrière qui y a plus l'intérêt de l'agent ou de l'entourage parce que quand tu vois un jeune qui part très tôt au Bayern, à la Juve et à Manchester, tu sais que ces clubs c'est un rouleau compresseur.
C'est devenu beaucoup plus tôt en général. Mm-hmm. Les clubs, les grands clubs prennent les talents déjà beaucoup plus tôt.
Bien sûr.
À 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, ils les prennent déjà. À l'époque, c'était pas comme ça. Nous, dans notre génération, tu jouais jusqu'à 18, 20 ans, tu jouais à Bruxelles. Et après, peut-être, tu changeais à Zurich. Ça marchait. Mm-hmm. Oui, non. Aujourd'hui, si tu joues jusqu'à 20 ans à Bruxelles et tu veux changer à Zurich, aucune chance parce que les autres qui sont venus avec 12 ans, ils ont toute une autre...
La mentalité, la culture du club, etc.
Et la formation.
Exactement, ils ont grandi.
Tu as toute autre formation à Zurich qu'à Bruxelles. C'est ça le point. Ça veut dire, si un jeune, tu as absolument raison, j'ai eu beaucoup de discussions à part de ça. J'ai parlé avec Michi Frey quand il est parti à Lens. Mm-hmm. À Lens, il était à Lens.
Non, il est allé à Lille.
À Lille.
Mais c'est un peu la même région, tu as raison.
Lille, il est allé, il voulait partir à Lille. J'ai dit, Michi, attends, fais une autre année ici, après tu vas beaucoup plus costaud, tu sais, mm-hmm. Tu vas beaucoup plus solide. Non, je veux aller. J'ai parlé beaucoup avec des autres joueurs que j'ai dit, écoute, fais encore une année en plus et après tu peux partir. Peut-être tu pars même dans un club plus grand. Hein? Mais ça, c'est ça, c'est l'évolution. L'évolution, les joueurs commencent déjà beaucoup plus tôt, 10 ans, 11 ans, 12 ans, dans le club. Et après...
Ils ont des agents à cet âge-là aussi. Hein. Des fois, moi, que j'ai ce regard, je trouve que ça va trop vite. C'est très compliqué de travailler comme ça. Je pense qu'un garçon, un petit garçon ou une petite fille, hein, elle doit avoir le temps
d'être grandir.
De grandir. Et
pas seulement grandir de la côté du physique, grandir de la, de la personnalité.
Bien sûr, bien sûr.
C'est beaucoup plus important.
Parce qu'après, on en fait des petits dieux tellement vite, tellement. Et à 20 ans ou à 22 ans, ils ont déjà eu 5-6 agents, ils ont déjà fait tous les clubs du monde, et puis après, ils arrivent de nouveau en Challenge League, et je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon. Ouli, je vais te laisser regarder des matchs et t'occuper de Caroline et Matteo. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'être avec nous et de nous avoir parlé de qui est Ouli Forte et comment il fonctionne, qui est Ouli Forte dans sa tête, dans son cœur, etc. C'était très riche, très intéressant. Je te souhaite le meilleur pour ta vie de famille et professionnellement, en espérant que tu trouves un challenge qui te convienne au plus vite.
Merci bien pour l'interview, merci bien pour l'invitation.
Et un grand plaisir.
Aussi, tout de bon pour le podcast. Hein, je le suivrai en futur.
Merci.
Je suis curieux de recevoir le link de celui-là maintenant. Tu me vas envoyer le link, je pense, non?
Bien sûr. Dès qu'il est prêt, on t'envoie le link.
Merci.
Et puis vous le trouverez sur tous les plateformes, hein, Spotify, Apple, etc., etc.
Ok. Bonne soirée à tous et restez en bonne santé. Hein. Ciao, ciao.
Merci.
Ciao.
Ciao, Oli. Ciao, merci. Hein.